Ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à Ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, Gaëlle Ouellette, présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines, sera mon invitée. Après plusieurs années passées dans les laboratoires comme chercheur en épidémiologie génétique, Gaëlle Ouellette retourne aux études afin de devenir conseillère génétique, car elle désirait travailler avec le public. Et c'est dans son travail en clinique qu'elle commence à s'intéresser aux maladies rares. Elle constate d'ailleurs que les maladies et les malades et leurs parents ont peine à trouver de l'information et du soutien. Alors c'est ce qui va l'emmener à cofonder en 2010 le regroupement québécois des maladies orphelines. Et le regroupement a permis à son tour la création du premier centre d'information et de ressources en maladies rares du Québec et du Canada que dirige Gaëlle Ouellette depuis sa fondation en 2010. On est content de la recevoir aujourd'hui parce qu'en plus ce soir, Gaëlle Ouellette et lauréate reconnaissante de l'UQAM 2015 pour la Faculté des sciences. Elle recevra donc le prix ce soir, donc dans le cadre du 15e gala reconnaissance de l'UQAM. On la reçoit tout de suite après. Madame Gaëlle Ouellette, bienvenue dans nos studios.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et très, très heureuse de vous recevoir, de passer 60 minutes avec vous, de vous connaître davantage, parce qu'on connaît ce que vous faites, mais on connaît moins la femme. Alors justement, Gaëlle Ouellette, est-ce que vous êtes née dans une famille scientifique?
Non, pas du tout.
C'était quoi votre...
Non, mes parents qui mon père était en fait travailleur d'usine et il est devenu un représentant syndical et il a fini par devenir un travailleur au syndicat, qui était un syndicat international à l'époque. Et... on lui a demandé à un moment donné d'aller chercher un diplôme universitaire, fait qu'il est allé faire des cours là, en lien avec son travail, mais donc c'était plus en relation de travail. Et puis ma mère, elle, après ses études, elle a travaillé à la même usine où elle a rencontré mon père et elle était à s'occuper de travail administratif, de paye et tout ça. Puis après, ben elle est restée à la maison, travaillée à la maison pour élever quatre enfants. Mm-hmm. Mais non, c'était pas une famille particulièrement scientifique. Pour une raison ou une autre, moi, lorsque j'étais petite, tout ce qui était dans la nature me fascinait.
Ah oui?
Et je pense que c'est comme ça que c'était toujours acquis que j'irais en science. Aller dans la forêt, dans le bois, regarder les plantes ramassées, regarder les insectes, les animaux. Ça a été mon premier contact, en fait, dans la nature avec la science. Et puis,
OK, donc vraiment, faire une promenade, vous, en forêt, avait une signification autre, c'est-à-dire peut-être d'analyser, de comprendre, d'essayer de comprendre les arbres, les animaux, si je comprends bien?
Tout à fait. C'était toujours de l'observation. Mm-hmm. C'était des jeux aussi, à la fois. Je vois moins les enfants faire ça, mais nous, à l'époque, on n'habitait pas loin d'une forêt, puis on allait tout seul, hein, les enfants. J'ai déjà assez jeune, là, avec des plus vieux, là, mais on allait seul dans le bois, puis on se faisait des cabanes. Mais moi, c'était toujours... J'étais fascinée par ramasser la mousse pour faire le tapis. Puis je regardais comment c'était fait. Les fleurs me fascinaient. Moi, je mangeais un fruit, puis c'était pas juste le manger, c'était regarder comment c'était fait à l'intérieur. Et ça me fascinait. Ça me fascinait qu'une graine devienne une pomme. C'était comme ça.
Donc, est-ce qu'il y avait donc beaucoup de pourquoi?
Oui, tout à fait. Oui.
À se demander pourquoi et comment c'est parti de là, c'est ça, essayer de comprendre.
Exactement. Pour une raison ou une autre, ces questions-là me venaient, moi, dans la tête.
Alors, qu'en était-il de l'école? Est-ce que vous étiez bonne?
J'ai toujours aimé l'école et j'étais bonne. J'étais la petite en grandeur, toujours la plus petite de la classe et souvent la première de la classe. J'ai eu de la difficulté la première année parce qu'en fait, c'est une famille bilingue. Ma mère est anglophone, puis mon père francophone. Puis ma mère nous a plus parlé anglais à la maison. Mais je comprenais le français, mais peut-être plus l'anglais. Alors que j'étais très sage et studieuse, ben il m'arrivait de demander en classe des fois à la petite fille à côté, c'est quoi ce mot-là? Je comprenais pas le français. Et là, je me faisais mettre dans le coin parce que je parlais dans la classe.
Mais... Alors que pourtant, c'était pour demander de l'aide, c'était pas pour parler d'un autre sujet.
Oui, puis aussi, j'étais tellement gênée et sage que c'était pas... C'était surprenant. Alors là, j'ai fait attention, mais après, je suis devenue rapidement les mots français que je... finalement, j'ai comblé ça rapidement. Puis j'étais toujours première de classe.
En étant première de classe, des fois, c'est pas facile. C'est extraordinaire pour la famille, pour les parents, pour soi-même. Mais parfois, c'est drôle et c'est très paradoxal d'être mise de côté. Est-ce que vous l'aviez, ce sentiment-là?
Plus tard, oui.
Aha.
Alors, ce qu'on appelle les nerds aujourd'hui, moi, je peux définir que j'étais une nerd. Au primaire, c'est pas si mal là, d'être studieuse puis de. Mais au secondaire, c'est sûr que quand on a de l'air de la petite studieuse intellectuelle, puis là, ma passion pour les sciences s'est développée encore plus. Et j'ai eu la chance d'avoir une professeure de biologie en secondaire 1 qui l'a vu, ma fascination. Je pense que, oui, je me faisais un peu... on se fait un petit peu... C'était pas de la grosse intimidation, mais...
On se fait mettre un peu de côté, quoi.
Oui, un peu.
Heureusement,
mais j'avais mon petit cercle d'amis.
Heureusement qu'il y a un univers qui est plus scientifique à ce moment-là où on peut s'isoler avec nos découvertes. Alors déjà, secondaire 1, professeur qui vous a inspiré?
Oui, cette professeure de biologie-là, Mme Grondin, qui était déjà, je me rappelle, quand on est jeune, on pense que les adultes sont plus âgés qu'ils sont peut-être, mais qui était déjà assez en fin de carrière. Et puis, elle a vu que, là, c'était les premiers cours de biologie qu'on avait, puis elle a vu que j'étais fascinée par tout. Et en plus, j'étais... une petite fille qui n'avait peur de rien. Donc, moi, on faisait vraiment à ce moment-là des dissections de lapins, de grenouilles,
d'ouvrir une grenouille, ça vous faisait rien du tout?
Non, on épinglait les grenouilles. Puis moi, j'étais respectueuse, puis je voulais pas... en fait, ils nous donnaient plus à ce moment-là, les animaux déjà, une euthanasier, mais... Mais moi, c'est pas des choses qui me rebutaient, là, de voir ça. Et puis, mes passe-temps, c'était toujours dans les sciences. Donc, je faisais mon propre herbier, je ramassais des plantes, je faisais mon propre herbier, je cherchais dans la forêt des squelettes d'animaux et je collectionnais ce genre de choses. Alors, elle m'a beaucoup encouragée, puis... un moment assez spécial, ça a été, il y avait une expo-science à notre école, alors c'est sûr que j'entrais à l'expo-science et puis j'avais décidé de faire un projet sur la dentition, puis j'allais même chez le dentiste chercher les dents, puis des dents d'animaux que je pouvais trouver, puis...
Oui, déjà, dans l'expérimentation!
Oui, j'avais fait ça, et puis... il y avait un garçon aussi dans ma classe qui aimait, et lui avait fait un volcan qui explose durant l'exposition. Puis, Alors, il y avait des médailles, puis moi, lui a eu la médaille d'or, puis moi, j'ai eu la médaille d'argent. Et puis, elle est venue me voir après pour s'excuser, et puis là, moi, je comprenais pas trop. Finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait beaucoup, beaucoup négocié, était contre que ce projet, lui, ce qu'il a fait, un volcan qui explosait, il n'y avait pas d'aspect recherche et
c'est juste un effet, finalement.
C'est ça. Puis elle avait essayé de vraiment... en tout cas, elle me défendait, elle disait que c'est moi qui devais avoir là. Puis là, elle m'a dit ça, puis elle m'a dit dans le corridor comme ça, je me rappellerai toujours, puis n'importe quand au cours de tes études, si tu as besoin d'aide, tu reviendras me voir.
ça reste longtemps.
Oui, tout à fait.
Ça reste longtemps et c'est même peut être même sur une table de chevet, cette petite phrase-là.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Et qu'est-ce que vous faisiez par curiosité avec les dents, finalement, vous?
Je
vouliez prouver quoi?
En fait, c'était pas si génial que ça. Mais j'avais fait un effort pendant des mois de trouver toutes sortes de dents. Mais c'était la base scientifique de la dentition. Je décrivais, puis c'est quoi une dent? Et puis pour les différents animaux, je décrivais. Fait que c'était pas. Mais il y avait une recherche scientifique, ce qu'elle reprochait aux garçons.
Qui faisait plutôt du théâtre. Alors, vous savez qu'à l'émission, vous choisissez les chansons, mais vous devez nous dire pourquoi. Vous avez choisi Richard Desjardins, Le cœur est un oiseau. Pourquoi?
Ah, parce qu'il chante liberté, liberté, liberté. Puis c'est quelque chose je pense qu'il faut toujours crier liberté.
On l'écoute.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore. Plus haut, le cœur est un oiseau. Dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts, de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, le cœur est un oiseau. Liberté.
Nous sommes en compagnie en direct de Gaëlle Ouellette. Elle est présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Alors, donc, vous étiez très occupée. Déjà, en secondaire 1, il y a comme un chemin naturel qui était en train de se tracer, finalement.
Ah oui, tout à fait. C'est comme si il y avait... C'est tout naturel, puis j'avais d'autres occupations. À côté, j'aimais beaucoup dessiner, puis faire des projets manuels comme ça. Mais sinon, ça a été le fil de toutes mes études après, là, les sciences.
Alors, les sciences, donc là, vous dirigez carrément à faire un bac. Alors, il y a le secondaire, le cégep, comment ça se passe?
Le cégep sciences pures, hein, puis j'aimais tout, la physique, la chimie, les maths, la biologie. Et il faut dire, malgré que mes débuts, c'est comme si c'était l'écologie, hein, dans la nature, mais je me suis éloignée de ça. Après, quand j'ai découvert la biologie le plus, finalement, la physiologie et puis le moléculaire, et c'est là que j'ai vu aussi que j'avais un intérêt particulier pour le plus petit,
finalement. C'est ça, plus petit, mais aussi vous rapprocher des humains.
Oui, c'est davantage. Vrai. Là, c'était plus la biologie humaine, oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Alors, vous faites votre formation, donc baccalauréat chimie, biochimie à l'UQAM. Ensuite, il y a une maîtrise en sciences, biologie, génétique à l'UQAM aussi. Et puis, il y a une espèce de retour en arrière aux études. Il y a comme deux maîtrises dans votre parcours, un doctorat.
Ah oui, parce que bien la maîtrise en biologie à l'UQAM, en fait, c'est ça qui m'a introduit à la génétique. Et puis là, je suis tombée dans une passion. Là, c'est la partie de la biologie qui me passionnait le plus. Et j'ai continué en doctorat en biologie moléculaire. Mais moi, biologie moléculaire, ça peut être beaucoup de types de molécules qu'on va étudier. Mais moi, c'était toujours l'ADN et toujours relié à la génétique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en biologie moléculaire. Et bien après ça, ben j'ai fait des études postdoctorales et j'ai joint un groupe de recherche là en découverte de gènes, en génétique humaine, mais découverte de gènes. Puis c'est au bout de 5 ans c'est là que je me disais, je voudrais faire être plus en clinique, plus avec les gens, pas
c'est
seulement...
C'est ça. C'est que vous faites la recherche jusqu'en 2004, puis comme en 2004, il y a une espèce d'éveil. Bon, on imagine toujours la personne dans son laboratoire, hein, on le voit, son sarreau, la petite fumée, les petites affaires, mais on voit la solitude, on voit que la personne est tout seule, hein, avec ses éprouvettes, et on voit qu'elle retourne avec ses recherches tout seule à la maison. J'ai l'impression que le contact humain vous manquait.
Oui, c'est curieux, parce que je ne suis pas la personne la plus... la plus sociable, la plus... Mais au niveau professionnel, effectivement, je le disais, hein, j'étais comme une nerd. Je me voyais souvent, puis les gens me voyaient comme ça. C'est comment on définit le rat de bibliothèque. Hein? J'allais lire des articles scientifiques. Je passais du temps à la bibliothèque, dans des lectures.
Avec les grosses lunettes. la caricature, quoi.
La caricature. Ouais. Et puis, c'est sûr, le travail de laboratoire, c'est de recherche scientifique. C'est pas nécessairement tout seul. On est dans une équipe, mais c'est quand on fait notre maîtrise, doctorat, c'est quand même notre travail à nous pour notre thèse. Lorsque je me suis dirigée plus en découverte de gènes, mais là, c'était les statistiques, l'informatique, la bioinformatique, donc l'ordinateur. J'étais plus au laboratoire, mais j'étais devant l'ordinateur, puis analyser des
encore une solitude, finalement. Des données, des chiffres, tout seul devant son ordinateur.
Exactement. Oui. Puis... Et moi, je trouvais ça difficile de ne pas avoir des résultats tangibles rapidement. Mmh. Et puis, la découverte de gènes, moi, j'ai travaillé sur des maladies communes et complexes. La maladie d'Alzheimer, migraine, la maladie bipolaire. C'est pas évident de trouver des gènes, donc on n'avait pas de résultats vraiment. Là. Et c'est là que j'ai eu le désir d'aller vraiment en génétique médicale, finalement, où là, on peut... Donc, il y en a qui ont vu ça parce que c'est pas une profession qui était très connue dans le milieu francophone au Québec. Alors, il y en a qui trouvaient ça comme un recul. Ben, t'as un doctorat, pourquoi t'irais faire une maîtrise? Mais c'était le but, c'est parce que c'est une maîtrise professionnelle où on est en clinique. Et puis, c'est de voir des gens puis leur expliquer les maladies puis leurs options.
Alors, c'est ça. Comment ça se passe en clinique quand vous faites votre seconde maîtrise? Il y a un doctorat, postdoctorat. Vous êtes bardé de diplômes, là, mais bon. On pourrait rentrer en studio puis les coller et tout, si. On n'aurait pas besoin de papier peint. Quand vous rentrez et vous sortez finalement de votre laboratoire et vous rencontrez des gens, c'est quoi votre première impression?
Je pense bien que c'est ce qui m'a amenée ici, là, mais premièrement, c'était très satisfaisant comme travail parce que pour ceux et celles là, chez les auditeurs qui ne connaissent pas beaucoup notre profession, mais là, j'étais conseillère en génétique au service de génétique du CHU à Sherbrooke et puis c'est vraiment de rencontrer des couples, des fois même une famille entière, des individus, des parents qui attendent un enfant, soit parce qu'ils ont des antécédents d'une maladie héréditaire, soit parce qu'on a découvert quelque chose en cours de route, une grossesse. C'est de prendre le temps. Hein. C'est une session d'une heure habituellement où on prend le temps de leur expliquer, de prendre leur histoire familiale en détail, de leur expliquer c'est quoi la maladie là, pour laquelle ils sont là et leur expliquer les risques possibles, répondre à leurs questions, puis quelles sont leurs options là, face à ça. Puis c'est satisfaisant dans le sens où c'est habituellement, ils sont surpris qu'on va prendre une heure à leur expliquer tout ça, répondre à leurs questions. Donc, il y a cet aspect-là. Mais l'autre aspect que j'ai vu, c'est le manque d'informations, justement, qu'ils avaient. Puis, donc, une partie de notre travail, c'est les diriger vers des ressources, des associations. Mais il y a tellement de maladies qui sont tellement rares où il n'y a pas d'association que là, on s'efforce de leur donner l'information. Ensuite, l'autre problème pour le Québec, c'est que beaucoup de cette information-là est en anglais, puis il n'y a pas beaucoup d'informations vulgarisées en français. Et ensuite, ils se trouvent seuls. Ils se trouvaient seuls. Il y a un parent qui m'a dit une fois, quand je leur ai dit, la maladie de votre fille, c'est la fréquence, c'est 1 sur 1 million. Ben, ils ont réagi. Puis c'est tombé sur nous. Tu sais, 1 sur 1 million.
C'est ça. Puis il faut dire aux gens qui nous écoutent, il y a 500 000 Québécoises et Québécois qui ont des maladies orphelines. Et dans ces statistiques, on parle de 50 000 enfants. Donc, le phénomène de la solitude, comme vous dites, bon, vous avez annoncé à un parent que 1 sur 1 million, que c'est donc il n'y a pas de fondation, il n'y a pas personne, il n'y a pas de regroupement. Contrairement à ce qu'on peut voir pour le cancer, par exemple, où là, les gens peuvent en parler, il y a de la prévention, il y a des fondations qui sont là pour ramasser de l'argent, même de la prévention. Et là, il y a aussi, c'est ça, c'est orpheline dans les deux sens du mot, là.
Tout à fait, c'est... d'où le mot orphelin. Ils sont orphelins à bien des niveaux.
C'est ça, exactement.
Puis d'avoir une maladie qui a un nom bizarre et que personne d'autre connaît et qu'on essaie de l'expliquer et puis les gens ont un air... On dit à nos amis ou d'autres membres de la famille qu'on a eu le cancer, les gens comprennent tout de suite. Ouais. On a fait un infarctus, on a le diabète. Mais quand on dit qu'on a une spondylose dysplasie avec un nom de médecin allemand qu'on a de la misère à prononcer.
On a besoin de prendre un papier même pour aller voir la personne pour l'annoncer tellement c'est difficile à prononcer. Là.
Tout à fait.
C'est presque un nom islandais. Là.
Exactement. Il faut les écrire pour les gens la plupart du temps.
Et donc, le fait de l'annoncer, de le dire, de rencontrer la personne, il faut l'entourer, il faut lui donner de l'information.
Oui, exactement. Mais on est un peu plus de conseillères en génétique au Québec. Là, on est une trentaine. Quand j'ai commencé, on était moins. Puis, il y a à peine ça, une trentaine de médecins généticiens. Donc, puis il y a quelques infirmières, puis nutritionnistes qui sont spécialisés en génétique. Mais on est peu là, qui peuvent vraiment les encadrer puis les suivre. Donc, les autres spécialités, ben, ils sont pressés, ils ont beaucoup de patients et ils peuvent pas prendre le temps beaucoup avec des gens qui ont des maladies si rares à expliquer, à trouver des ressources. Alors, c'est notre rôle, mais j'ai vu que si on est juste une trentaine au Québec, comment on fait là pour
les aider? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de clients, la clientèle elle est là. On revient tout de suite après, on va parler de la fondation, bien évidemment on est là pour ça aujourd'hui. Une autre chanson, Mes aïeux des générations, pourquoi?
Ben oui, parce que je suis généticienne, cette chanson-là m'a toujours... À chaque fois, même si on l'a entendu beaucoup, mais pour moi, génération, hein, c'est l'hérédité. Mais c'est sûr que là, c'est pas, on ne parle pas d'hérédité du point de vue biologique, on parle plutôt de l'hérédité d'un point de vue social. Mais elle est tout à fait à point, cette chanson.
Alors, la voici.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendue pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, frais ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
En compagnie aujourd'hui de Gaëlle Ouellette, elle est présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Alors justement, on est là-dedans. Vous décidez en 2009 de mettre ça sur pied. C'est en 2009 qu'il y a les pourparlers. Là, ça commence à bouger dans ce sens-là.
Oui, tout à fait. En fait, aussitôt que j'ai commencé ma carrière de conseillère en génétique, je suis venue en contact, oui, avec des personnes isolées, des parents, des familles isolées, mais avec des associations de patients aussi. Puis, en fait, particulièrement avec une association qui venait de se créer et qui s'appelait la fondation du nom de la petite fille, là, qui c'était assez long, là, mais le père a créé le portail québécois des maladies génétiques orphelines. Alors, c'est en fait la première fois qu'une association se créait avec le nom maladie orpheline. Et puis, je me suis proposée de les aider avec leur association. Je me suis joint au conseil d'administration et j'ai commencé à... Puis, j'ai développé l'aspect portail, parce que le portail, en fait, c'est un site Internet où les gens pouvaient nous trouver, puis être moins isolés, nous contacter, puis... S'il voulait de l'information sur la génétique ou les maladies, ben je me suis offerte d'aider à ce niveau-là comme professionnelle. Et puis, pour donner l'information juste et officielle. Puis, donc, c'est avec cette organisation-là que j'ai commencé. Puis, l'idée de ce père-là, c'était de regrouper. Mm-hmm. Mais bon, les circonstances de sa vie et toutes sortes de circonstances ont fait que le regroupement s'est pas vraiment créé. Et il y avait aussi Pierre Lavoie au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec son association Acidose Lactique, CORAM qui existe, qui fait de l'éducation sur les maladies héréditaires là-bas. Il y a l'ancienne, si vous connaissez, là, ce qu'on appelait la Fondation Claude Saint-Jean.
Oui, tout à fait.
Qui en fait, Claude Saint-Jean, pour moi, c'était le premier militant au Québec.
Il a fait énormément de choses, oui. Énormément.
Mm-hmm. Puis c'est devenu l'association des ataxies familiales. Et donc, je rencontrais ces associations-là, puis j'ai commencé à dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez qu'on se regroupe? Moi, je savais ce qui se passait en Europe, surtout, et aux États-Unis pour les maladies rares. Et c'était tellement plus avancé.
Mais c'est ça, on a l'impression que nous, on est vraiment en retard. Aux États-Unis, l'expression de maladie orpheline apparaît dans les années 2000. Et puis, il y a comme aussi quelque chose d'officiel, ce que nous n'avons pas. L'appellation officielle de maladie orpheline, elle n'existe pas en 2015. Alors, il y a vraiment... Et pourtant, il existe 7000 maladies orphelines à travers le monde. Là, c'est pas rien.
Non,
on dirait que le retard, il est là. Le train, on le prend pas, là.
Ah oui, c'est même plutôt aux États-Unis, la fameuse médicament orphelin, maladie orpheline. C'est il y a eu une loi, un règlement, l'Orphan Drug Act, mm-hmm. en 83. Donc, eux, déjà à la fin des années 70, ils en parlaient. Mm-hmm. En 2000, c'est parce que là, il y a eu le Office of Rare Disease, un bureau des maladies rares pour la recherche. Et l'Europe, eux, la France, en 2009, la France c'était le premier pays qui avait déjà depuis 4 ans un plan national maladies rares. Et là, l'Europe allait suivre. Là. Donc, moi, je savais tout ça qui se passait, puis j'ai dit, bien, pourquoi on se regroupe pas? Puis je me suis offerte pour aider finalement à créer ce regroupement-là en 2009. On a eu une réunion de fondation, puis on l'a lancé officiellement
en 2010. Pendant l'année finalement de...
À la journée internationale des maladies rares. La première journée de ce international comme ça, c'était en 2008. Donc, okay. C'était la deuxième. Et puis, là, nous, on lançait notre regroupement au Québec.
Alors, le chemin est long pour les parents, pour les gens qui ont cette maladie rare, cette maladie orpheline. Parfois, ça va dans toutes les directions et parfois, ça prend énormément de temps. Et Dieu sait que c'est important, le temps dans la maladie. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est difficile à gérer, de savoir, de passer de médecin à médecin, de spécialiste? Vous avez dit que vous êtes très peu nombreux au Québec parce que souvent, on entend là, des cauchemars, là, des gens qui disent « mais non, c'est pas vrai ce que t'as ». Ou quoi que ce soit, c'est dans ta tête, alors que finalement, ils ont cette maladie qui sera détectée comme orpheline. Est-ce que c'est pas ça aussi le nœud du problème, d'avoir trop de temps, pas avoir assez de moyens de détecter rapidement?
Oui, c'est ce qu'en France, on a appelé l'errance diagnostique.
Ouais.
Puis nous, le sondage qu'on a fait dans la première année du regroupement auprès de près de 300 individus, familles, ben c'est près de 40 % que ça a pris 3 ans et plus pour un diagnostic. Bon, c'est aussi inhérent aux maladies rares hein, d'être difficile à diagnostiquer. Ouais. Parce que la plupart sont très rares. Les médecins ne peuvent pas les apprendre, les 7000, dans leur cours de médecine. Et donc, c'est pas évident, là. Mais, par contre, nous, on sait, là, on a regardé nos statistiques, tous ces 96 % des gens qui ont répondu avaient finalement leur diagnostic. Alors, quand on regardait le nom de la maladie, il y en a que ça nous questionnait quand même, là. C'est-à-dire que ça aurait pu être diagnostiqué plus rapidement, probablement, entre autres, si les personnes avaient été référées à un service de génétique. Mmh. Mais bon, je le disais tantôt, on a peu de ressources.
C'est ça.
Puis, puis 80% des maladies sont génétiques. Donc, si on pouvait penser plus en termes de ces maladies, peut-être que ça aurait été plus rapide.
Sont génétiques, mais non héréditaires.
Les deux. C'est ça qui est des maladies génétiques non héréditaires, mais il y en a de nombreuses qui sont héréditaires. Mais le problème, c'est qu'on pense souvent que une maladie héréditaire, ça veut dire absolument qu'on a des parents puis une histoire familiale, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il faut que dans des familles, ça commence quelque part, une maladie.
Ça peut sauter une génération aussi.
Oui, tout à fait. La façon de la transmission, les maladies liées à l'X où les femmes sont porteuses puis les garçons sont atteints. Donc, il faut faire attention à cette analyse-là. Puis malheureusement, peut-être plus aujourd'hui, mais jusqu'à récemment, là, on peut pas dire que les médecins avaient une très bonne formation en génétique. C'était tout le temps très de base, là. Donc, on voit que il y a quand même, dans plusieurs cas, les gens auraient pu être dirigés plus rapidement puis obtenir un diagnostic. Mais c'est quand même inhérent. Mais nous, on propose des solutions qui devraient peut-être améliorer. Là, il suffit d'en parler.
Et qu'est-ce que c'est les solutions que vous proposez?
Bien, nous, pour le diagnostic, entre autres, plus rapide, pour pas qu'il y ait à errer dans le système comme ça longtemps, bien déjà, je pense qu'il faut parler des maladies rares. Vous savez, rare, c'est la définition médicale. Hein? Une maladie rare, c'est une maladie qui atteint moins d'une personne sur 2000 dans la population, mais on dit qu'ils sont orphelines pour toutes les raisons dont on a parlé plus tôt.
Est-ce qu'on les appelle orphelines parce qu'on ne sait pas ce que c'est?
Bien, orpheline, ça vient, ça vient du fait que les compagnies pharmaceutiques, là, dans les années 70-80, ne s'y intéressaient pas parce que faire un médicament pour 100 personnes à travers le monde ou même 2000, ce n'est pas un marché.
Une maladie sans remède, autrement dit.
Exactement, c'était plutôt ça. Ouais. Mais c'est sûr, le terme s'est élargi parce que c'est sous des maladies orphelines à bien des niveaux. Il y a souvent il y a de plus en plus de recherches, mais beaucoup de maladies, il y en a peu. Et puis, dans le système de santé, un peu le manque de ressources.
Votre solution, on y était là, solution pour détecter plus rapidement?
Bien, nous, on pense qu'il faut enseigner c'est quoi les maladies rares. on n'enseignera pas les 7000, comme je disais, mais en France, ils ont fait une campagne qui s'appelait « Et si c'était une maladie rare? » Donc, ce qu'on dit, c'est d'instaurer le doute dans l'esprit. Puis je ne sais pas si vous avez vu que le zèbre est le symbole des maladies rares et des personnes qui ont des maladies rares parce que quelqu'un, un professeur, disait à ses étudiants de médecine, si vous entendez un bruit de sabot, ne pensez pas au zèbre, mais au cheval. Lui, il disait, ne pensez pas au plus rare là, tout de suite. Là. Mais nous, on dit, une fois qu'on a terminé là, avec les maladies communes, puis si ça ne semble pas être ça, Il faut penser aux zèbres. Oui, exactement. Alors, je pense qu'il faut il faut l'apprendre. Oui. Puis, ce qui serait bien, ils le font aussi en Europe, c'est des individus avec des maladies rares, des parents d'enfants avec des maladies rares, ils vont leur faire une petite conférence pour leur dire c'est quoi la réalité, c'est quoi la différence d'avoir une maladie rare qu'une maladie commune. Et je pense que là, ils vont comprendre.
Être moins isolé aussi, le fait d'en parler, d'avoir des porte-paroles, parce que on revient à l'échelle québécoise ici, il y a Pierre Lavoie qui est sorti, mais c'est à peu près tout. Là, on n'a pas vu beaucoup de gens se battre. Ils se battent en privé, mais je veux dire comme porte-parole. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il en a parlé, il va continuer à en parler, il fait beaucoup pour la santé. Ça en prend des gens comme ça.
Oui, tout à fait. Je pense que vraiment, on a fait des pas. Là, on en parle plus des maladies orphelines, mais c'est vrai que ça n'a pas le même impact que les maladies. On le sait, il y a beaucoup de choses par rapport au cancer, maladies cardiaques. Ce qui est aussi difficile, c'est. Ce qui est bien avec Pierre Lavoie, c'est qu'il y a. Lui aussi, je dirais que c'est le deuxième militant patient.
Oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure de M. Saint-Jean, effectivement. Mais on va dire le porte-parole vivant.
Oui, tout à fait.
Pour honorer les deux.
Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait la maladie qui a emporté deux de ses enfants, l'acidose lactique congénitale, une maladie spécifique. Mais lui, il a dépassé ça. Puis là, il a sa fondation pour la recherche sur toutes les maladies héréditaires, orphelines. Parce que C'est sûr qu'on pourra pas, on pourrait avoir des porte-paroles pour des milliers de maladies, oui, si on veut, mais dans le fond, pourquoi on a fait le regroupement, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes défis, mm-hmm. puis les mêmes obstacles, mm-hmm. puis donc c'est ce
même problématique.
Oui, exactement. Mm-hmm. Puis, mais chacun, on comprend, veut plus de recherche pour sa maladie, oui. plus de la faire connaître. Ça, ça va, mais tous les, en tout cas, on pense qu'on peut se battre pour tout ce qui est commun à ces maladies.
Alors, on y va encore en chanson. Votre choix, c'est combien, Fred Pellerin? Pourquoi?
Ben oui, parce que moi, quand j'ai entendu cette chanson-là la première fois, ben, je trouve ça génial de mettre des concepts comme ça en parole. Puis c'est vraiment, bon, on est toujours en train de penser à l'argent. L'argent mène le monde. Puis donc, souvent, la conversation se termine en « c'est combien? »
Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelques temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quelle botte s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines. Tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. On bouche les trous avec des clous, l'argent du pain, l'argent du beurre, puis la chèvre et puis le chou, puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le bénéfice a mis sa main dedans le doute, la terre qui tourne peut même plus joindre les deux bouts. À 4% on te remercie, puis pour le reste il y a vas-y, faut payer. Flambée du prix de l'indécence, si tu veux être, faut que tu dépenses. La bourse mouline sur la confiance, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien. Un petit peu moins pour un petit peu plus cher, au profit notre laisser-faire, attendre jeudi pour le nécessaire, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien. À la santé de la croissance, de la croissance. On laisse dormir l'amour dans les petites avances. L'incalculable a rendu l'homme, mais le silence, notre silence, puis la fin de notre silence, c'est combien? C'est combien?
Alors, Gaëlle Ouellet, justement, c'est combien pour... Pour faire toutes ces recherches, est-ce que ça prend énormément d'argent? Est-ce que c'est encore l'argent, le nerf de la guerre pour vraiment pallier à tous les besoins?
Oui, tout à fait. Puis, mais on veut être réaliste. On a regroupé là, une cinquantaine de personnes le 26 février pour parler d'une stratégie québécoise. Puis, on a décidé d'être réaliste et de dire, bon, on est dans un contexte là, qui est de qu'on appelle austérité ou compression budgétaire, comme on veut, là, et de réforme de notre système de santé. Alors, ça ne sert à rien d'arriver avec des demandes en bloc, hein, avec beaucoup, beaucoup d'argent. C'est comme ça que ça s'est passé en Europe. Puis en France, ils ont été chanceux, ils ont fait leur premier plan, puis... ils ont réussi, le gouvernement y a alloué des millions d'euros pour le mettre en place. Et donc, nous, on veut être réaliste. Donc, c'est petit à petit. Je pense qu'il faut convaincre de l'utilité. Il faut que les familles, justement, montrent comment elles en ont besoin. Oui. Puis, y aller petit à petit, mais il n'y a pas de raison, comme on a dit plus tôt, que nous, on n'ait pas de définition de cette catégorie de maladie-là, puis qu'on ne reconnaisse pas les besoins. Ensuite, il y a la recherche. La recherche, bien, au Québec, on a toujours mis assez d'argent dans la recherche en génétique. On a trouvé beaucoup de gènes de maladies rares du Québec ou même d'autres qui sont aussi dans d'autres pays, qui sont ailleurs dans le monde. Mais bon, et puis on voit que ça avance. Là. Le gouvernement de Nomi a eu des annonces là, depuis un an, deux ans. Mais ce n'est pas que la recherche, parce qu'il y a aussi dans la qualité de vie là, des personnes. Ils ne peuvent pas attendre tout le temps 30-40 ans pour un médicament. Il y a aussi des améliorations à faire maintenant.
Mais justement, une question comme ça, là, qu'est-ce qu'ils font quand il n'y en a pas de médicaments? Vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour soigner ces maladies si le médicament n'existe pas? Ouais. Parce que c'est une maladie orpheline, comment on fait pour donner de l'espoir à ces gens-là?
Bien, évidemment qu'il y en a qui sont incurables, hein, puis la mort s'ensuit. Mais il y a les maladies chroniques, où là, il y a toutes sortes de symptômes et souvent accompagnés de douleurs et d'incapacité, d'invalidité toute sa vie. Bien, c'est symptôme par symptôme qu'on les traite. Hein. Il y a seulement près de 300 produits maintenant qui sont spécifiquement pour des maladies rares. Il y en a que c'est pour plusieurs maladies. Donc, au total, là, il y a à peu près 400 médicaments qu'on peut dire, qu'on appelle médicaments orphelins. Pour 7000 maladies rares. Alors, c'est pas beaucoup. Et c'est sûr, là, il y a de plus en plus de recherches là, sur certaines maladies. Il y en a qui sont plus orphelines que d'autres. Et puis, donc, ça donne de l'espoir. Mais c'est pas évident, de trouver le médicament, qu'il soit trouvé efficace après toutes ces années d'essais de recherche et d'essais cliniques. Et ensuite, il y a toujours la question de l'accessibilité aussi.
Oui, parce que ça prend toujours du temps une fois qu'on l'a trouvé, le médicament. Hein. Il y a quand même un temps entre le fait qu'on l'ait trouvé et le fait de le donner au patient.
Oui, tout à fait. Puis, il y en a plusieurs qui n'y arrivent pas, ces médicaments-là. C'est la nature de la recherche. Hein. Les résultats sont pas bons. Scientifiquement, c'est pas bon. Et puis, l'autre problème, bien, c'est souvent ce qu'on appelle des médicaments innovateurs. Donc, c'est des technologies qui coûtent cher. Puis comme le marché est quand même petit, bien, c'est des médicaments qui coûtent cher. Fait qu'il y a aussi toute la question de qui paye et est-ce qu'on peut payer.
Donc, vous avez votre mission, c'est d'offrir des services d'information, de soutien pour les malades et leurs familles, pour les professionnels de la santé également, recueillir, partager, faire circuler l'information sur ces maladies rares entre les diverses associations et les maladies rares ainsi que les individus. Sensibiliser, vous l'avez dit, le public et le milieu médical et puis faire évidemment avancer les connaissances sur les diverses maladies rares et orphelines. Donc évidemment de la recherche tout le temps qui, même si vous êtes en clinique, il y a la recherche qui se fait la Direction générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Et vous avez aussi un blog sur les maladies orphelines où vous faites la vulgarisation.
Oui, c'est vraiment partie inhérente de notre profession comme conseillère en génétique, mais je pense que j'ai toujours aimé ça. En fait, ce que je trouvais le plus difficile comme en faisant de la recherche en sciences, moi, c'était les articles, écrire un article sur une petite partie de la recherche, et c'est le langage scientifique. Les articles scientifiques, c'est pour les scientifiques entre eux. Hein?
Oui, c'est difficile.
Comme les articles dans la littérature médicale, c'est pour le milieu médical en général, mais ce que j'ai toujours aimé, c'est plutôt simplifier toutes ces notions-là, puis surtout la génétique. Alors, c'est ce que j'aime faire. Puis, J'ai des blogs, évidemment, où je donne des points de vue, mais j'aime toujours, toujours vulgariser pour que les gens comprennent d'abord la base scientifique, ensuite les enjeux.
Ce qui n'est pas toujours facile de vulgariser non plus, hein, j'imagine.
Non, c'est pas toujours facile. Puis, il faut vraiment se mettre dans les souliers de quelqu'un qui n'a pas eu qui n'a pas eu cette formation.
Cette formation.
Ouais, ouais. Puis,
Alors, ce soir, vous recevez un prix. C'est l'UQAM, hein, l'Université du Québec à Montréal, qui va décerner, lors de son gala reconnaissance, à sept prix, des diplômés, et vous faites partie de ces diplômés. Je vais juste vous lire ce qu'on a écrit, qui est très bien et très beau pour vous. Alors, Faculté Sciences, Gail Wallet, pour son cheminement qui l'a mené des laboratoires aux patients, son investissement dans l'univers des maladies rares et pour son exceptionnel engagement scientifique et personnel. Qu'est-ce que ça vous fait?
Bien, ça a été une grande surprise de me faire annoncer que je recevais ce prix. Ça me fait chaud au cœur de penser que, que j'étais cette nerd scientifique puis qui était dans mon petit monde de science puis qui finalement a pu faire quelque chose qui a un impact dans la société. Ça fait chaud au cœur d'être remercié pour ça. Puis je trouve que ça met les maladies orphelines encore plus sur la carte, et puis c'est ça qui me fait le plus plaisir pour toutes les familles touchées.
On revient avec la conclusion de l'émission et le jeu questionnaire. Gail Wallet, quelles sont les personnes qui vous ont inspirée?
Bien, je pense d'abord mes parents. Je parlais de la science tantôt, mais j'étais comme un enfant touche-à-tout. Puis mes parents ont été comme ça. Mes parents, ma mère faisait plusieurs choses, en plus d'être mère et épouse à la maison, elle s'intéressait à l'artisanat. Et mon père, lui, il a même eu une petite ferme à un moment donné. Il s'intéressait à beaucoup de choses, la menuiserie. Alors, je pense que pour nous, les enfants, ça nous a inspirés.
Vos mentors?
Ah, des mentors. Je parlais de ma fameuse prof en biologie. Je pense bien que ça a été la première, là, Mme Grondin. Mais j'ai mon superviseur de doctorat, le Dr Ted Bradley. J'étais à l'Institut du cancer du CHUM Notre-Dame. Et puis, c'était quelqu'un qui avait une pensée originale, puis un humanisme qui m'a beaucoup inspirée.
Vos livres que vous nous recommandez?
Dans le léger, la fantaisiste, parce que j'ai souvent besoin de ça. Moi, je lis plus des choses qui sont déprimantes. Alors, moi, je recommande tous les romans policiers de Louise Penny, parce que c'est aussi le Québec, puis même mon environnement à moi, parce que je vis maintenant dans les cantons de l'Est, et puis c'est aussi l'anglophone, le francophone, c'est intéressant. Et puis, à un niveau plus fantaisiste, là, c'est les romans de... Carlos Ruiz Zafón, je trouve que c'est Barcelone, on aime, et ça, c'est fantaisiste.
Et les villes que vous nous recommandez?
J'ai toujours aimé Montréal, j'y ai habité longtemps, puis j'adore aller à Québec régulièrement, on adore ça, mais Paris, là, marcher, je pense que je peux toujours marcher 10 heures, 12 heures dans Paris, puis... et j'avoue, je suis allée à Prague quand j'ai eu mes 40 ans. Puis je ne sais pas si ça a bien changé depuis, mais j'ai bien aimé Prague.
Merci, merci beaucoup. Merci, Gail Wallet. Merci à mon équipe à la recherche, Christiane Campagna, médias sociaux, Kevin Breton. Et un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté, que je perds parce qu'il va vers son devoir de père. Un grand merci pour ce beau travail, Jean-Sébastien, et profite de ces beaux moments avec ta famille. Merci mesdames, messieurs d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.